Bonjour à tous, maison d'études avec ce matin Anne Mounic et Claude Viget, Jacob ou l'être du possible. Monique, bonjour.
Bonjour.
La figure du patriarche biblique Jacob a beaucoup intéressé à la fois les théologiens et les commentateurs de la Bible, les poètes et les écrivains. On s'est intéressé chez les uns et chez les autres en particulier à des thèmes qui sont au cœur du parcours de Jacob, comme le droit d'aînesse, la rivalité fraternelle et surtout à ce que la Bible décrit comme ayant été sa lutte avec l'ange. C'est à tout cela, mais d'abord à ce que nous dit aujourd'hui le personnage de Jacob, que vous êtes intéressé vous-même, Anne Mounic, au point de lui consacrer un livre qui paraît aux éditions Caractère sous le titre « Jacob ou l'être du possible ». Je rappelle que vous êtes poète et romancière et que vous enseignez la littérature anglaise à l'Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. J'ai également invité avec vous le poète, notre ami Claude Viget, parce que vous avez consacré de nombreuses études à son œuvre et qu'au cœur de cette œuvre, on trouve de très nombreuses pages consacré au personnage de Jacob. Mais d'abord, une première question à vous-même, Anne Mounic. Qu'est-ce qui pousse une poétesse agnostique, comme vous semblez l'être, pardonnez-moi, à s'intéresser à un personnage aussi ancré dans la tradition religieuse du judaïsme ?
D'abord, c'est sans doute le fait d'être poète, mais aussi la première fois que j'ai rencontré le personnage de Jacob, c'est dans le livre de Robert Graves, le poète anglais, qui s'appelle La déesse blanche. Il consacre quelques pages à Jacob et fait de lui justement, avant Claude Viget, le modèle du poète en quelque sorte, hein, notamment dans sa lutte avec l'ange, qui est une lutte avec le négatif. Et aussi, il remarque sa claudication. Robert Graves était un poète qui avait participé à la guerre de 14, qui a donc vécu ce traumatisme profond, ce face-à-face avec la mort dans les tranchées en Picardie. Et l'idée de claudication a été pour lui une façon de figurer le poète après cette épreuve. Et ensuite, j'ai rencontré Claude Viget. Et bien sûr, pour Claude Viget,
donc vous
Jacob,
connaissez
c'est
l'œuvre
l'axe.
Totalement. Il faut
oui,
bien dire que vous êtes probablement celle qui connaît son œuvre le mieux aujourd'hui.
Oui, après lui, peut-être.
C'est facile.
C'est vrai.
Qui sait, peut-être avant lui.
Oui, donc pour Claude Viget, Jacob, c'est l'axe de vie. Hein, c'est la figure du poète dans ce qu'elle a de...
Nous allons lui donner la parole pour qu'il l'explique lui-même. Donc ce qui vous a intéressé, c'est le personnage en tant que symbole de poésie.
En tant que, modèle pour un poète. Alors, après, si vous voulez, dans l'étude, on voit apparaître... Alors, le personnage de Jacob apparaît à plusieurs moments hein, dans la poésie, dans la littérature. Mais je crois que le moment décisif, c'est 1861, le tableau de Delacroix, la lutte avec l'ange dans l'église Saint-Sulpice. Hein. Tout le monde peut aller le voir.
Oui, absolument.
Parce que là, ça a donné lieu à beaucoup de réactions chez de nombreux poètes, notamment Baudelaire, qui a écrit sur ce tableau, qu'il voit l'affrontement de Jacob avec un être surnaturel qui a beaucoup de force, mais cède en quelque sorte à Jacob, ne le brusque pas. Et ensuite, il y a eu un certain nombre de tableaux. Alors, je peux citer Gauguin, Odilon Redon.
Nous allons y revenir, mais si je puis me permettre, outre cette dimension du poète qui vous intéresse, j'ai cru comprendre que ce qui vous frappe d'abord dans le parcours, l'itinéraire de Jacob, c'est son existence d'errant, parce qu'elle serait symbolique de la précarité de la condition humaine.
Absolument, oui. Je pense que on peut voir dans Jacob un prélude au héros picaresque. Oui. Du fait de la pérégrination Et parce que l'histoire de Jacob, finalement, occupe pas mal de chapitres de la Bible. Il n'y a pas que la lutte avec l'ange. Il y a d'abord, avant d'affronter Dieu de nuit et éveillé, il en rêve. C'est le songe de l'échelle. Et ensuite, on voit chez Jacob une évolution. Le personnage évolue, le personnage devient mûr. Donc il y a aussi un aspect roman de formation. Dans ces épisodes de la Bible. Et puis alors après, l'étreinte avec l'ange, c'est le couronnement d'une maturité. C'est aussi l'affrontement avec la négativité, avec le temps, avec le réel, dans tout ce qu'il a de
qui échappe au voir. Vous n'êtes pas frappé quand même par le fait que voilà un homme au soir de sa vie, à qui on vient dire que son fils a été vendu, qu'il est mort. Je parle de Joseph.
Oui, bien sûr, oui. Oui, alors ensuite, effectivement, il y a cette évolution avec la perte du fils, retrouver le fils. Et en dernière instance, et c'est pour ça qu'on voit vraiment une évolution, une affirmation du personnage, quand il bénit les fils de Joseph, il inverse l'aîné et le cadet, comme finalement il l'avait fait sous l'influence de sa mère, étant jeune et naïf.
Il faut que je vous dise que le terme qui est utilisé par la Bible, Shikel et Tiadav, et le terme, les trois lettres qui sont utilisées, sont également celles de l'intelligence. Ça veut dire qu'il a agi avec intelligence. Vous vous souvenez de cet aspect des choses, Claude Vigée ?
Naturellement. Comme Rebecca avait essayé de le faire passer en premier, sa mère, ainsi, lui, sur son lit de mort, essaye de faire passer cette bénédiction tout à fait extraordinaire aux deux enfants de Joseph, qui est lui-même un miraculé. Joseph lui-même est à ses yeux un miraculé. Il le retrouve au soir de sa vie, alors qu'il le pensait mort depuis des dizaines d'années. Et c'est un peu l'histoire de Jacob. D'ailleurs, quand il se définit devant le pharaon, qui l'invite, qui veut connaître le père de son premier ministre, finalement, Joseph. Alors Pharaon, qui était sans doute un homme jeune, lui demande alors, ta vie, c'était quoi ? Et il répond, je résume, ma vie a été brève. Avec ça, il avait plus de 110 ans.
Oui. Brève. Mais enfin, bref, pour l'époque, probablement.
Brève, en tout cas, brève et malheureuse.
Oui.
Parce qu'il n'a pas atteint totalement dans cette vie le rêve de la joie divine. Ça veut dire qu'il a été toute sa vie en quête de l'extase divine. Son véritable moteur, c'est l'attente du moment de la révélation. Et ça, il l'a tout de même réussi. Et si nous sommes là ce soir, ou ce matin, c'est à cause de lui.
Alors Anne-Monique, vous commencez votre travail en notant que Jacob est tout à la fois l'homme de l'avenir et celui de la prière du soir. C'est vrai que la tradition juive considère que c'est lui qui a fondé le Ma'ariv, ou Arbit, comme on dit, c'est-à-dire la prière du soir. Mais l'homme de l'avenir.
Alors, l'homme de l'avenir, il faut peut-être aussi insister sur le fait que dans la tradition juive, justement, Jacob, c'est la voix, à partir du verset qui concerne...
Kol Yaakov, Yadayim Yede Esav, la voix est celle de Jacob.
Ce qui, évidemment, est très intéressant pour un poète. Et je vois dans cette voix, justement, l'idée de puissance d'être, de puissance de création. Donc, à partir du moment où on laisse libre cours à cette puissance de création... on crée l'avenir, on crée le possible, d'où mon titre, Jacob ou l'être du possible.
Il y a une dimension dont je n'ai pas trouvé l'écho dans l'analyse que vous faites du personnage de Jacob, et qui est la suivante. La Bible le présente d'entrée de jeu comme Ishtam Yoshev Ohalim, un homme intègre qui est assis sous les tentes. Et la tradition juive considère que cet acte qui consiste à s'asseoir sous la tente, c'est l'acte qui consiste à étudier toute la journée. Et moi je suis très sensible à cette dimension des choses, je n'en ai pas trouvé l'écho chez vous.
Vous voulez
l'homme
dire...
qui étudie tout le temps.
L'homme qui étudie tout le temps. Oui. Mais vous savez, le poète, c'est l'homme qui étudie tout le temps, en quelque sorte. Mais ce qu'il étudie, c'est quelque chose qui échappe au visible, qui n'est pas encore acquis. Et ça, c'est la dimension, effectivement, du possible, la dimension de l'avenir. C'est-à-dire, ce que le poète va faire surgir, c'est ce qu'on ne sait pas, ce qui est, comme le dit Claude Vigée, ce qui est encore inouï au moment où cela surgit. Je pense qu'effectivement, cette dimension de la voix est capitale. Et d'ailleurs, pour les poètes modernes, à partir de Delacroix, et pour les artistes également, je crois que Jacob a représenté cette possibilité. Chez Mallarmé, par exemple, on trouve dans Le démon de l'analogie une référence à la voix première. Et qui...
Qu'est-ce qu'il appelle la voix première, Mallarmé ?
Alors justement, on aboutit, donc le titre c'est Le démon de l'analogie, qui est un titre qui est inspiré de Poe, hein, le démon de la perversité. Mallarmé marche, comme Jacob, donc il y a une notion de rythme, hein. Et puis tout d'un coup il décrit la descente d'une aile, un frisson de plume, comme il dit. Il y a une sorte d'ambiguïté entre l'aile et la main, l'aile devient la main, et puis dans le geste d'une caresse, c'est magnifique,
ah oui, c'est beau.
Et il aboutit à la voix première. Et je pense que c'est cette voix, justement, des profondeurs qui est la voix poétique. Et après, dans le dernier paragraphe, c'est un poème en prose, le démon de l'analogie, donc il aboutit à ça aussi par l'analogie, par le système des correspondances, hein, comme l'avait fait Baudelaire. Et dans le dernier paragraphe, il fuit, parce qu'il prend peur.
La voix première, c'est Claude Vigée, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà une formule merveilleuse qui doit vous donner à penser.
C'est la voix de Jacob. C'est cette voix, alors dans cet extraordinaire épisode, où, déguisé par sa mère, avec des gants de chevreau, pour tromper son père, Isaac, aveugle.
Parce qu'Ésaü et lui avaient les mains, des bras différents.
Jacob, c'est l'homme de la voix. Ésaü, c'est l'homme des mains, justement, et des mains du tueur, du chasseur. Et il se fait passer pour le tueur-chasseur de façon à avoir la bénédiction d'un père qui lui-même a failli être la victime du couteau. Et c'est cet extraordinaire passage.
Alors,
le mot col veut dire voix en hébreu, hein, mais le mot est repris deux fois dans le même verset. Col.
Col Yaakov, la voix est la voix de Jacob.
Deux fois.
Oui.
Pourquoi ? Or, si on regarde de près, ça je l'ai appris de Manitou, de mon maître, c'est que ce n'est pas écrit de la même façon. Le premier, col,
il y a un vav,
il est juste, couf, lamed. Le vav saute. Alors que normalement, il y a un vav au milieu qu'on prononce O.
C'est ça.
Donc, au lieu de col, avec un O,
cal.
C'est, voilà.
La facilité.
Et ça, c'est la rançon. Lorsque Jacob veut jouer, pour de bonnes raisons, pour sauver sa peau, et aussi pour d'autres raisons plus profondes, lorsqu'il veut jouer à Ésaü, l'homme des mains, sa voix, au lieu d'être pleine, d'être la grande voix, devient la petite voix étriquée, cale, légère, celle qui ne porte pas, que personne n'écoute. C'est tout le destin des Juifs dans la diaspora. Entre nous et Ésaü, mettons. Entre la grande voix de Jacob, Col Yaakov, et la petite voix de la dispersion. C'est tragique et à quel point vrai.
Mais il y a un très beau texte du Midrash de la littérature légendaire auquel je voudrais que vous consacriez l'une et l'autre un petit commentaire. Il dit ceci, d'ailleurs moi je trouve que c'est drôle, il présente Jacob bavardant avec Léa après sa nuit de noces, qu'il passe avec elle, et il lui dit, au fond, ton père et toi, vous n'êtes que de fiefés menteurs. Vous m'avez trompé, puisque au lieu de Rachel, c'est Léa qui se présente à lui. Et Léa de lui répond du tac au tac, ça te va bien, toi, de parler de menteur, alors que c'est l'hôpital qui se moque de la charité, alors que lorsque ton père, Isaac, t'a demandé, est-ce que tu es Ésaü, tu as répondu oui.
Et pour ça, il a dû payer le prix. D'abord Léa au lieu de Rachel, et ensuite toutes les avanies de l'histoire d'Israël, après. Je crois qu'il y a quelque chose en même temps d'imaginatif et de tragique dans cette histoire-là, parce que nous sommes encore dedans, aujourd'hui même. Et alors Léa qui trouve, comme dit le texte, le soleil se lève, Et voici, c'est Léa. Oui. Il y a un côté comique, n'est-ce pas ? Un côté comique. Oui. Mais dans cette comédie, il a tout de même fait combien d'enfants ? 9, je crois.
Hein ? Non, au total.
Avec les servantes.
Les servantes.
Et de Rachel, seulement deux. Oui. Les deux préférés. Et là, de nouveau, le drame.
Joseph et Benjamin.
Et parce qu'il est le préféré, les autres le haïssent. Et tout le drame, tout se tient là-dedans.
Mais moi, je me suis toujours demandé. Pourquoi, lorsque la mère, Rivka, essaye de monter toute cette opération d'intrigue, parce qu'elle joue le rôle d'une intrigante, pourquoi il se laisse faire, Jacob ?
Bien, parce qu'il veut la bénédiction de son père. Autrement, c'est l'autre, le tueur, le chasseur, qui l'avait. Parce que, comme le dit Jacob, je me souviens de mémoire...
Enfin, avoir une bénédiction au prix d'un mensonge, et de quel mensonge ?
C'est toujours mieux que rien. Et puis, Esaü lui amenait de la venaison, il lui amenait des animaux à manger, tandis que Jacob n'amenait que l'étude. Et il y a un côté à la fois comique et profondément tragique dans tout ça. Oui. Je pense évidemment qu'il a failli et qu'il a dû payer pour ça.
Vous avez une opinion sur tout cela ?
Mais en même temps, Jacob ne fait que suivre... un appel profond en lui que Esaü refuse, puisque auparavant Esaü a troqué pour le fameux plat de lentilles son droit d'aînesse déjà. Donc chez Esaü, il y a ce refus d'accomplir ce qu'entraînerait la bénédiction, c'est-à-dire prendre le soin de la parole de Dieu. D'ailleurs, dans le Midrash Rabba, on dit « Quand la voix de Jacob retentit dans les synagogues, Esaü n'a pas de main ». Mais je pense que de la part de Jacob, c'est aussi dans le Midrash et après dans le Zohar, c'est aussi la ruse. Et on dit que Jacob, c'est le rusé parce qu'il doit être rusé puisqu'il doit répondre à ce que fait Esaü, aux actions parfois maléfiques, souvent maléfiques d'Esaü.
C'est vrai que le Midrash le présente comme un être rusé, mais on ne peut pas dire qu'il l'ait été avec son beau-père Laban.
Si, il l'a été à la fin, quand il rentre et qu'il
il a passé 21 ans à travailler comme un esclave au service de son beau-père.
C'est vrai, c'est vrai.
Qui pourrait faire cela aujourd'hui ?
Ça veut dire que c'est difficile d'être juif, non ? C'est pas ça que ça veut dire, hein ? Cacher l'yot yéhoudi.
Alors vous dites à Mounik que Jacob incarnerait le devenir choisi comme principe de vie.
Oui, Roland Barthes a consacré un essai à Jacob, et dans cet essai, notamment à la lutte avec l'ange plus précisément, plutôt que sur Jacob en général, et dans cet essai, il dit que Jacob claudique et Œdipe aussi, mais il y a une différence essentielle entre les deux, c'est que Œdipe, quand il naît, est déjà pris dans un réseau de paroles. Il y a un oracle qui dit qu'il fera telle chose, telle chose, telle chose.
C'est pas le cas de...
Ce n'est pas le cas de Jacob. Jacob fabrique son destin au fur et à mesure. C'est pour ça que je pense que la dimension picaresque est essentielle et aussi de formation.
En d'autres termes, il est libre.
En d'autres termes,
parce qu'il écoute la parole divine dans le silence, sous la tente. C'est pour ça qu'il est libre. Oui. Alors que son frère est l'esclave de ses pulsions. Il est esclave de la violence. Il est la violence. Parce que vous citiez tantôt un morceau de Midrash. Il faut le compléter en disant que lorsque Jacob prend les mains d'Ésaü, Ésaü prend la voix de Jacob à sa place.
Sans l'avoir voulu, je suppose. Et comment peut-il...
Il faut demander à la papauté ce qu'elle en pense. Et oui, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Il y a une usurpation, mais des deux côtés.
Oui, mais je crois que aussi la dimension d'étreinte doit être considérée. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une dissociation entre Jacob et Esaü au point de séparation. Je pense qu'il y a toujours une sorte de dialectique entre les deux. Plutôt, on lutte avec l'ange, c'est-à-dire étreinte en fait. On embrasse le négatif.
Vous voulez dire que c'est une lutte avec et pas contre l'ange.
Voilà. Exactement, ça je pense que c'est important. Et la dimension d'étreinte, je ne sais pas si vous connaissez le tableau de Rembrandt, là dans ce tableau on n'a pas du tout de lutte, on a une sorte d'embrassement par l'ange de Jacob. Et je crois que vraiment cet aspect est essentiel.
Claude Vigée là-dessus.
Ce sont des jumeaux.
Voilà, ce sont des jumeaux.
L'un tire l'autre par le talon, c'est-à-dire Jacob tire Ésaü, mais nous sommes tous aussi des Ésaü. Il faut bien le comprendre. Nous, Israël, on est aussi Ésaü, et de même dans Ésaü, une bonne partie de Jacob. Et c'est ce qui rend possible, dans la deuxième partie du livre d'Anne, que je trouve tout à fait admirable, la grosse partie, c'est quand elle projette l'image ou la figure de Jacob dans toute la littérature occidentale non-juive.
C'est ça.
Ça, c'est formidable.
Alors, j'allais y arriver, justement, Monique. L'épisode de la lutte avec l'ange a inspiré bien des poètes comme Lamartine, Claudel, Cocteau, Prévert, Pierre-Emmanuel, et des écrivains tels que Hemingway ou Malraux, mais aussi des peintres comme Delacroix ou Gauguin, entre autres, vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui, d'un mot, les intéresse en particulier, le dénominateur commun de tous?
Je pense que justement à partir de ce tableau de Delacroix 1861, dans une société individualiste, il faut que l'individu comprenne comment faire face au réel. Et je crois que Jacob, justement dans sa liberté, dans sa puissance d'être, pour un artiste, est justement le modèle idéal, puisqu'il ne nie pas le réel. Il l'affronte, il l'embrasse, il l'étreint, donc il le convertit pour en faire son œuvre, en quelque sorte. C'est une façon d'affronter tout en convertissant et tout en s'appropriant le réel. Finalement, c'est ça, l'œuvre. L'œuvre, c'est bien de s'approprier la réalité pour la dire. Et la dimension de récit est essentielle dans Jacob. Ça, c'est dans la traduction de Henri Méchonique que les choses sont très claires. On sent, il y a toujours dans l'histoire de Jacob cette dimension du je et du tu. Dans le rêve, Dieu est un tu, et, ou alors s'adresse à Jacob comme tu. Donc il y a toujours cette subjectivité, cette interaction subjective, ce qui est important.
Ce qui est curieux, c'est que le texte biblique, quand il raconte la rencontre avec l'ange, il ne parle pas d'ange, il parle d'homme. Ish. Comment expliquez-vous ça, Claude?
Oui, Ish veut dire n'importe qui, au fond. C'est quelqu'un. Quelqu'un qui, à mes yeux, mais ça c'est mon interprétation, il est au moins démon plutôt qu'ange. Je ne vois rien dans le livre en lui. Et c'est, en réalité, tout le monde le sait, c'est l'ange de la mort. Le nom qu'on lui donne à la tradition biblique juive, aussi bien dans le Talmud, dans le Midrashim que dans la Kabbale, c'est Samaël. Donc, et c'est l'esprit d'Ésaü aussi. C'est l'âme profonde d'Ésaü, c'est lui. Mmh. C'est cet ange démon qui est en même temps le jumeau de Jacob avec qui il se bat. Ne l'oublions pas, il se bat à mort. Il y risque sa vie, son existence, et il tient jusqu'au matin. Tenir veut dire souffrir. La claudication à la fin, c'est le signe de cette terrible souffrance d'avoir choisi la vie en défiant la mort de façon perpétuelle. C'est grandiose et en même temps, pour nous, quelle leçon. Nous ne pourrons donc, en tant que descendants, fils de Jacob, nous ne pourrons arriver au jour futur qu'à travers une lutte incessante dans laquelle nous risquons notre être humain.
C'est celle que nous menons tous les jours, non?
Oui, c'est ce que je dis, aujourd'hui.
Oui, alors, dans cette image, dans cette étreinte avec l'ange, et dans la traduction que vous m'avez donnée et dont nous avions discuté, il y avait ambiguïté. C'est-à-dire que quand l'homme est repris avec le pronom, c'est aussi bien Jacob que l'autre. Il y a une dimension d'altérité qui est très importante.
Il, on ne sait pas qui est
voilà,
il.
Voilà, on ne sait pas qui est il. Et donc ça veut dire qu'on a la thématique du double. Et dans l'introduction d'Henri Méchonique, ceci se révèle tout du long. Dans tout le récit, il y a cette thématique du double. Alors là, évidemment, on pense au roman de Dostoïevski, Le Double. Et dont le héros s'appelle Jacob.
Voilà. Comme par hasard, oui.
Ce que vous avez dit, Claude, me rappelle cette définition que j'ai trouvée, ou cette référence que j'ai trouvée dans votre livre, Madame Monique, de Nelly Sachs, qui parle en faisant référence à la lutte avec l'ange, de, citation, « cette blessure entre nuit et jour qui est notre demeure ». Je trouve ça superbe.
Oui, c'est superbe.
C'est ce qu'elle dit beaucoup mieux que j'essayais de dire tantôt.
Non, mais vous l'avez dit aussi bien. Vous êtes aussi bien.
Je l'ai exprimé autrement. Dans un vers qui a fait fortune, si je puis dire, un des vers de ces longues suites consacrées à Jacob. Jacob est poésie ont le même destin, être juif ou poète.
C'est tout. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ça, puisque c'est l'occasion ou jamais. Parce Jacob et poésie ont le même destin.
Être Jacob veut dire écouter l'infini, essayer de capter la voix, pas le visage, mais la voix de l'infini, la voix de HaKadosh Baruch Hu, à tout prix, et en risquant le tout pour le tout. Mais c'est ça la poésie. Qu'est-ce que c'est qu'un poète ? C'est quelqu'un qui, à partir de ce monde-ci, dans la mélasse de ce monde, dans l'horreur de l'histoire, essaye d'écouter la voix qu'il appelle au-delà, la voix de l'infini.
Enfin, il y a des poètes qui ne croient pas en l'au-delà ou...
Ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas. En réalité, un poète, dans le
fond... Monique, vous êtes d'accord avec cette vision des choses, vous qui êtes agnostique ?
Mais c'est un... Oui, justement, parce que c'est un au-delà qui n'est pas au-delà, qui est...
En nous.
Plutôt en deçà, en nous. C'est justement cette dimension d'avenir que nous avons tous en nous par notre puissance d'être, notre puissance créatrice. Et ça, c'est adaptable pour n'importe quel individu, pas seulement un artiste ou poète. Savoir ce que l'on est, créer sa propre temporalité, c'est essentiel et c'est ce que fait Jacob.
Alors il y a aussi une autre formule qui est celle de Bruno Durocher qui lui parle de Jacob comme fondement appelant Israël à être fidèle à l'Arche d'Alliance. Votre commentaire, Claude.
À l'Arche d'Alliance.
Oui.
C'est-à-dire au...
Voilà, à l'Alliance, d'une manière générale.
Ou à l'Arche, c'est pas la même chose.
Ah non, c'est à l'Arche d'Alliance, mais en même temps, le mot...
La loi.
Je comprends que le mot important, c'est l'Alliance, c'est bien
pour
ça.
Pour Bruno Durocher.
Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'Alliance, fondamentalement, pour Jacob ? C'est d'écouter, justement, ce qui se passe quand Moïse, par exemple, est dans le sein des cinq, et qu'il écoute ce qui sort de l'Arche d'Alliance. Je parle de l'Arche de la tente. Du temple plus tard. La voix qui sort de là, dont l'hébreu dit qu'elle se parle à elle-même, à Mit Daber, c'est la voix.
Oui, Mit Daber, c'est un mot qui est pronominal, c'est-à-dire il se parle, il est à la fois l'acteur et le récepteur.
Et Moïse écoute.
Oui.
Moïse Jacob. C'est le rôle même, n'est-ce pas, des enfants de Jacob, c'est d'écouter cette voix et de l'incarner. Et de la transmettre aux autres, ce qui provoque beaucoup, beaucoup d'hostilité de la part des autres, très souvent. Qui veut entendre cette voix ? Qui dit, tu ne tueras pas ? C'est pas rigolo, tu ne voleras pas. Ni ceci, ni cela. Et 613, non.
Ah oui, 613, il a chargé la barque.
Voilà, d'où le problème dans l'histoire humaine.
Oui, il faut quand même, pour Bruno Durocher, il faut quand même préciser que ce retour au judaïsme, cette exploration du judaïsme, vient aussi du fait du traumatisme, puisque c'est un rescapé des camps.
Il y était à Auschwitz.
Et je profite de ça aussi, puisque Bruno Durocher était l'époux de Nicole Balia, qui est la directrice des éditions Caractère, de dire que c'est grâce à elle que ce livre existe.
Mais Claude Vigée, à un moment donné, vous dites que Jacob, on a compris après ce que vous avez dit, et la parole humaine, mais la voix existentielle, ça veut dire quoi ?
Pas une voix abstraite. C'est pas une voix de philosophe qui, dans le septième ciel, avec des mots, avec des concepts, essaye de résoudre tous les problèmes humains en oubliant ce qui se passe là en bas. Il ne faut pas oublier que Jacob, dans le rêve de l'échelle, il voit jusqu'au ciel, mais d'en bas. Et il reste en bas. Et selon un midrash célèbre que Vivel a joliment traduit, quand Dieu lui dit à Jacob, puisqu'il l'aime bien, encore une chose étrange, pourquoi est-ce que Dieu aime Jacob ? Parce qu'il est Jacob, parce qu'il écoute. Alors Dieu dit à Jacob, du haut de l'échelle, toi si tu montes, tu n'auras pas besoin de redescendre. Et Jacob dit, écoute, non, je préfère rester là-bas.
Je préfère rester parmi les miens.
C'est plus sûr. Alors il dit, dans ce cas-là, tes descendants seront esclaves en Égypte. Et la fin est tragique. Et Jacob, atterré de son choix, mais il dit, et ça durera toujours. Et Dieu répond, non, pas toujours. C'est une réponse pas rassurante. Hein.
On a près de l'avenir, comme vous le dites, il ne cherche pas à vaincre, mais à être.
Vaste question.
Mais vous avez une minute pour répondre.
Oui, parce que La démarche de Jacob n'est pas une démarche de rivalité, c'est pas une démarche conflictuelle, c'est une démarche qui cherche justement à creuser la vie dans ce qu'elle a de plus vivable, de plus agréable, de plus merveilleux. Il y a un poème où on trouve ceci. La réponse à la question « Quel est ton nom ?» hein, dans le passage de la hutte avec l'ange serait dans ce poème « Merveilleux ». Et ça, je trouve ça magnifique parce que c'est tout à fait ce que cherche le poète, c'est à s'émerveiller.
Un dernier mot, Claude, une conclusion ?
Eh bien, dans Jacob, moi, au début de la Deuxième Guerre mondiale, à Toulouse, en pleine Shoah, j'ai trouvé à 19 ans, 20 ans, pour la première fois, une figure dans laquelle je me reconnaissais et je voyais ce qui... Mais au quotidien, pas au ciel. Dans toute l'horreur du Toulouse de 1940 et de ce qui allait suivre, Jacob, c'est la voix qui permet d'écouter le souvenir de Dieu, si je puis dire, et d'éviter le désespoir. Pour moi, c'était ça.
Madame, monsieur, merci. C'était Maison d'études. Notre invitée ce matin était Madame Anne Munich pour son livre Jacob, lettre du possible, paru aux éditions Caractère. Et le poète Claude Vigée participait à cette émission. Équipe de réalisation, Jean-Richard Dufour, Bruno Sourcy et Victor Malka.